Donc Exode, vous savez qu'on est dans une série toujours, donc jusqu'à Pâques, jusqu'au 5 avril, encore trois dimanches avec celui-ci dans Exode. On va aller jusqu'au chapitre 14. La semaine prochaine, on aura la joie d'accueillir un orateur invité qui vient d'Aix-en-Provence, qui nous parlera de la première Pâque, la Pâque juive au départ, mais qui est le prototype, n'est-ce pas, qui est le modèle réduit, la maquette de ce que Dieu a fait en beaucoup plus grand, en plus glorieux encore avec Jésus-Christ. Et donc c'est toujours en vue de ça, en préparation de ça, que nous lisons aujourd'hui dans les chapitres 7 à 10. Donc pour vous rassurer tout de suite, on va pas lire l'entièreté des 4 chapitres. Si vous ne l'avez pas fait, ou je vous encourage à prendre du temps pour le faire cette semaine et regarder plus en détail ce qu'on y trouve. Comme dans toute bonne série, c'est toujours bon d'avoir un petit récapitulatif. Vous avez remarqué dans les séries américaines, par exemple, avant que ça commence, on a un rappel des derniers événements, comme ça on est raccroché avec l'histoire, et puis ça nous donne envie de suivre là où on en est. Et juste, je vais essayer de faire ça rapidement, mais réaffirmer ce matin, et on l'a vu, que Dieu tient toujours ses promesses. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Dieu tient toujours ses promesses. Il fait avancer ses plans, même quand on le voit pas, même quand toutes les circonstances semblent contraires. Je sais pas dans quelle étape tu es, dans quelle phase tu es dans ta vie ce matin, mais une chose est sûre, Dieu est fidèle à ses promesses. Il fait avancer ses plans, quoi qu'il arrive. Et donc, se rappeler de ses actions passées, pour nous, c'est une très bonne chose. Parce que c'est cultiver alors notre espérance, notre amour pour lui, aujourd'hui. Dieu est « Je suis celui qui ne change pas ». Donc s'il est intervenu comme ça dans le passé, il va encore intervenir comme ça aujourd'hui et dans l'avenir. Et dans nos vies personnelles, n'est-ce pas? C'est une pensée rassurante pour la vie de l'Église. Alors qu'on va réfléchir aussi tout à l'heure, en tout cas pour les membres, à la perspective, pour la suite de notre communauté, c'est une bonne pensée d'avoir en tête. Parce qu'on regarde ici l'église de Cavaillon, celle qui se rassemble dans ses locaux en tout cas, et on dit, ça c'est un petit troupeau. Hein. C'est un petit troupeau, mais Dieu fait croître. Dieu fait grandir. Et au final, à l'échelle planétaire, à l'échelle universelle, il y aura un grand peuple, une multitude. En fait, c'est en train d'arriver. Dans le monde, croyons-nous que c'est aussi le cas à Cavaillon et sa région, que Dieu est bien encore en mission aujourd'hui dans notre région. Et alors, la question c'est, est-ce que nous sommes comme les sages-femmes sages, si vous vous rappelez de chapitre 2, qui étaient prêtes à vivre de façon à honorer Dieu, à craindre Dieu, quoi qu'il arrive ? Au risque de leur propre confort et de leur propre vie. Et une dernière chose qu'on a vue, je pense, jusqu'à ici, c'est que Dieu appelle. Il appelle Moïse, il appelle un peuple. Et ça passe par un intermédiaire, en tout cas pour le peuple. Et dans Exode, nous voyons que Dieu suscite de façon toute spéciale Moïse. Moïse est appelé par Dieu, et en même temps, tout en étant appelé, il est risqué de s'approcher de Dieu qui est saint, sans respecter ses conditions à lui. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu? Et le peuple aussi de Dieu doit apprendre cela. L'Église ici, à Cavaillon, doit savoir cela. Et Dieu se plaît à utiliser des choses faibles du monde, des personnes faibles du monde, comme Moïse, pour faire des grandes choses, afin que sa gloire à lui soit manifestée. Et c'est le projet, c'est le grand thème de ces chapitres 7 à 10. Dieu, pourquoi il fait les choses tellement difficiles? Il pourrait claquer des doigts, dire « Voilà, je suis là, regardez, constatez, je suis Dieu. » Et on dirait qu'il traîne, on dirait qu'il se rend à lui-même les choses difficiles. Mais au final, c'est pour faire éclater sa gloire, sa puissance. C'est pour qu'il n'y ait aucun doute, qu'il y ait des certitudes fermes. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et tous les autres dieux sont du toc. Et Dieu est bien celui qui est en train de libérer le peuple. Non pas Moïse, non pas Pharaon ou je ne sais qui d'autre. Non pas le peuple lui-même, parce qu'il aurait des qualités en lui qui lui permettraient cela. C'est Dieu et Dieu seul. Et je vous invite à lire alors à partir du chapitre 6, verset 26. Et on va lire jusqu'à 7, 13. Donc, Exode chapitre 6, verset 26 jusqu'à chapitre 7, verset 13. On a juste avant ça une généalogie qui nous dit un peu les origines de Moïse. Et puis voyez un peu la conclusion, verset 26. C'est à sept Aaron et ce Moïse, c'est-à-dire des gens pas très importants, si vous lisez la généalogie, que l'Éternel dit « Faites sortir les Israélites d'Égypte en corps d'armée. » Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, au roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Il s'agit de ce Moïse-là et de cet Aaron-là. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Moïse répondit en présence de l'Éternel « Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écouterait-il » L'Éternel dit à Moïse « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et je ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Waouh, plein de choses ici dans ce passage, n'est-ce pas? Dieu au contrôle de toute situation, Dieu en train d'intervenir, et Moïse et Aaron, les serviteurs de Dieu qui se conforment à tout ce que Dieu dit, et le Pharaon qui s'endurcit, qui s'entête. En fait, on va voir cela. On va voir d'abord qu'on a besoin d'un médiateur, d'un libérateur, un porte-parole de Dieu et quelqu'un qui n'est pas juste un porte-parole mais qui aussi manifeste la puissance de Dieu. Ce sera la première partie. Puis après, on va voir deux réactions par rapport à ça. La réaction du Pharaon et son obstination et la conséquence pour le peuple et pour les nations. Nous avons besoin, nous aussi, d'un médiateur et d'un libérateur. On a déjà compris que le peuple, tout ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux dans cette histoire-là de l'Exode, c'est une maquette, d'accord? Donc ce que Dieu est en train de faire ici, ça va être les mêmes principes d'action qu'il va reproduire sans cesse, parce qu'il ne change pas. Et de manière totale et glorieuse en Jésus-Christ. Donc on peut regarder à la manière dont il utilise Moïse et Aaron pour s'adresser non seulement au Pharaon, mais aussi à son peuple. Le peuple est en train de découvrir que Dieu utilise des personnes aussi faibles que Moïse ou Aaron, 80 ans, 83 ans. Ils n'étaient plus dans la fleur de l'âge, comme on dit. On a déjà vu Moïse qui avait un tempérament qui le disqualifiait même de son service. un Moïse qui avait pris conscience qu'en fait il était vraiment faible. Et il disait à Dieu, envoie plutôt quelqu'un d'autre que moi. Et on avait vu Dieu se plaît à utiliser les choses faibles du monde. C'est bien un enseignement aussi du Nouveau Testament. Lisez 1 Corinthiens chapitre 1 par exemple. Ou les lettres aux Corinthiens. Dieu se plaît à utiliser des choses faibles dans le monde pour manifester sa puissance. Parce que c'est celle-là qui compte. Donc, le peuple est en train de découvrir qu'il faut un médiateur. Il découvre aussi qu'il va y avoir besoin de sang. Ça va être une autre partie dans Exode. Il va falloir que du sang soit versé pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Parce que la dette vis-à-vis de Dieu, c'est notre propre vie, notre propre sang. Ça implique que nous mourions si nous voulons payer la dette à Dieu. C'est une pensée terrible et on va voir un substitut, un remplaçant est possible. Donc Dieu a besoin d'un médiateur, et le peuple a besoin surtout d'un médiateur, et le peuple a besoin d'un libérateur qui fait des prodiges, qui agit de façon puissante pour faire plier l'ennemi. Et toutes ces choses, voyez, Moïse les fait avec l'aide de Dieu. Donc Dieu dit, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton porte-parole, sera ton prophète. C'est, je crois, en fait, une version miniature de Dieu en mission qui envoie son Fils, sa parole, par Dieu le Fils, qui est le porte-parole, celui qui nous apporte cette parole de la part de Dieu, et qui non seulement est porte-parole, mais qui aussi fait des actes de puissance dans notre vie pour nous racheter, pour nous libérer. C'est lui, l'homme fort, si vous vous rappelez ce qu'on a vu dans l'évangile de Marc, qui vient lier le chef de la maison qui prend tous ses biens, qui pille sa maison. Et donc, la réalité ultime, c'est Jésus-Christ pour nous. C'est lui que l'on cherche, en fait, dans les Écritures. C'est en vue de sa venue que tous ces événements passés de l'Exode sont intervenus. C'est afin de nous enseigner, de réveiller en nous l'attente du secours définitif de Dieu en Jésus-Christ. Et pour nous, Jésus est le médiateur par excellence, le seul et unique qui nous amène à Dieu. Donc ce matin, quand on écoute la parole de Dieu, c'est vrai, Dieu utilise des moyens faibles, je vous garantis, c'est vraiment faible. Moi, Jean, la musique, et tout ça ne sont pas la réalité ultime qui va nous amener à Dieu. Toutes ces choses-là sont utiles et bonnes si elles nous amènent à Jésus-Christ, c'est lui qui est le médiateur entre nous et Dieu. C'est pas l'ambiance de nos rassemblements, c'est pas telle ou telle personne humaine, c'est pas tel bâtiment, mais c'est Jésus et sa parole. Aucune de ces autres choses n'est nécessaire. Seul Jésus est nécessaire pour s'approcher de Dieu. Et Moïse est juste un prototype, une maquette de ça. Donc le peuple est en train de comprendre, tiens, c'est Dieu utilise Moïse, ça passe par Moïse, ça passe par un médiateur. C'est Moïse qui va prier, qui va intercéder, non seulement pour Pharaon, mais aussi pour le peuple devant Dieu. C'est Moïse qui fait, si vous voulez, l'interface entre Dieu et le peuple. Et tout ça pour nous amener à regarder à Jésus-Christ avec confiance, parce que de façon bien plus grande, lui aussi est envoyé. Lui, il n'est pas fait Dieu, si vous voulez, il est Dieu. Il est Dieu qui s'est révélé et qui parle dans notre cœur. Et Dieu utilise Moïse, il va confier ses paroles à Moïse, et Moïse va confier ses paroles à Aaron qui va lui-même les partager à d'autres. En fait, si vous lisez dans Jean, l'évangile de Jean, vous voyez Jésus qui annonce, « Père, tout ce que tu m'as dit de dire, je l'ai dit. Tout ce que j'ai vu faire chez toi, je l'ai fait de la même manière. » C'est donc dans le dernier discours de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 13 à 17. Et de la même manière que j'ai vu faire ça maintenant, moi je suis en train d'envoyer mes disciples dans le monde. Donc aujourd'hui l'Église, elle est aussi le porte-parole de Dieu, de Jésus-Christ dans ce monde. Et donc nous aussi, en tant que peuple, nous allons être envoyés, nous sommes envoyés pour annoncer les paroles de Dieu. Un peu, si vous voulez, à la manière de Aaron. Est-ce qu'Aaron a inventé un message? Est-ce qu'Aaron a fait sa petite sauce à lui-même? Non, on voit, on l'a lu dans le passage, et Moïse et Aaron se sont conformés à ce que Dieu avait dit. Ils ont fait mot pour mot, si vous voulez, action pour action, ce que Dieu leur avait ordonné de faire. On a déjà vu ça, tiens, chez Noé, si vous vous rappelez, dans Genèse. Des gens qui agissent avec confiance, avec fermeté, en accord total avec la parole de Dieu. Voilà des bons modèles pour nous à suivre. Alors, voilà que Dieu est en mission, voilà que Dieu envoie Moïse et Aaron pour faire connaître sa parole, pour faire connaître la bonne nouvelle, libérer mon peuple. Et on voit l'opposition, on voit deux réactions. On voit en premier l'opposition du Pharaon, principalement. Et la deuxième partie donc, que je voudrais partager avec vous, c'est une sorte d'avertissement. Les faux dieux de l'Égypte, ou nos faux dieux actuels, ceux en qui on met notre confiance, ceux en quoi on met notre confiance en dehors de Jésus-Christ, en dehors de Dieu lui-même, l'Éternel, je suis, sont vraiment en toc. Voyez, les sorciers, ils viennent, on l'a lu ça aussi, Pharaon se laisse pas convaincre tout de suite, donc on déduit du texte qu'il a demandé, faites un signe pour que je puisse croire un petit peu à ce que vous êtes en train de me dire. Donc Aaron s'exécute, il lance le bâton devient serpent. Waouh, ça c'est impressionnant, hein. Ah, mais après on est un peu déboussolé nous en tant que chrétien, en tant que croyant en tout cas. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le Pharaon appelle les magiciens, les sages, et ils font la même chose. Et en fait, pendant un certain temps, ils arrivent à imiter et à singer les sorciers et les voyants, à les actions de Dieu. Voyez, les personnes qui utilisaient les forces occultes en Égypte sont capables, pour le premier signe, le bâton changé en serpent, et pour les deux premiers fléaux, l'eau changée en sang et l'invasion de grenouilles, de manifester une puissance comparable à celle de Dieu, qu'il est en train de déployer, celle que Dieu est en train de déployer au travers de Moïse et Aaron. Ah, on pourrait s'arrêter en superficie et dire, peut-être que là, on devrait commencer à douter, hein. Peut-être que Dieu n'est pas si grand que ça, s'il peut être imité. Mais remarquez les grandes failles dans ce raisonnement, quand on lit de plus près. D'abord, au chapitre 7, versets 10 à 12, on l'a lu, Moïse et Aaron allaient retrouver le Pharaon, donc ils se conforment, ils jettent le bâton, voilà, j'ai fait deux mots en un, le serpent, donc le bâton qui devient serpent. Et on voit donc les sorciers de l'Égypte faire la même chose. Mais, verset 12, la fin du verset 12, mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Ah, qui est puissant, qui est supérieur en puissance alors à l'occultisme de l'Égypte. C'est Dieu. Dieu est supérieur, et non seulement supérieur, mais unique. Au final, il ne reste que le bâton de Dieu, le serpent, si vous voulez, de Dieu. C'est lui qui les a engloutis tous les autres. Et en fait, si vous regardez, deuxième faille, les actes des astrologues, des devins égyptiens, ne font que renforcer l'obstination, l'apesantissement du cœur de Pharaon. Ils le poussent encore plus loin à refuser la suprématie et le caractère unique de Dieu. C'est le verset 13, juste après. Il est témoin, Pharaon, d'un acte extraordinaire, mais le cœur du Pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cette semaine, le téléphone a sonné. Un message préenregistré, vous avez ça des fois chez vous, j'imagine, ça vous énerve comme moi, ça m'a énervé. C'est déclenché de l'autre côté et je m'attendais à avoir une annonce pour m'insister à acheter une alarme ou du vin ou je sais quoi d'autre. Et au lieu de ça, cette fois-ci, j'étais vraiment surpris et triste au fond de moi. Parce que de l'autre côté, c'était en fait un cabinet de voyance. La première fois que je recevais ce genre de coup de fil. Combien de centaines de milliers de personnes cette semaine ont reçu des appels comme ça préprogrammés par ordinateur et ont appuyé sur la touche. Ce qu'ils auraient peut-être jamais osé faire, d'aller, de se rendre dans un lieu pour rencontrer une telle sorte de personne qui est en train d'utiliser l'occultisme. Et là, directement dans la maison, ça arrive maintenant. Combien n'auraient pas osé franchir le pas et avec des bonnes raisons de ne pas le faire. Et puis, sous cette pression, seront prêts à risquer maintenant. Combien de nos voisins, de nos amis, misent leurs espoirs chez les marabouts sans se rendre compte que l'enfermement spirituel, c'est ça que ça va produire, l'enfermement spirituel. Ils vont se retrouver enfermés spirituellement en réalité. Et donc je mets en garde à chacun ici, si vous avez utilisé dans le passé les voyants, les sorciers, les astrologues, ou si jamais quelqu'un était tenté de faire appel à de telles personnes, ne le faites pas. Votre cœur va s'apesantir. Et même s'ils peuvent vous berner pendant un temps par des actes qui semblent puissants, des divinations qui semblent puissantes, en fait, ils n'ont pas la capacité de faire du bien. Regardez, c'est la troisième faille. Même si les sorciers égyptiens arrivent à produire des actes puissants, quelle est la finalité? Ils ne font qu'empirer les choses. Quand Dieu change l'eau en sang, c'est pas une bonne chose, hein. C'est un acte de jugement. Parce que l'eau devient infecte, il y a une puanteur dans toute l'Égypte. Il n'y a plus d'eau propre à boire. Ce qui serait nécessaire, alors, c'est que les marabouts égyptiens inversent la transformation, n'est-ce pas? Que l'eau du Nil redevienne de l'eau bonne à boire. Ça serait puissant. Ça serait renverser la puissance de Dieu. Mais regardez avec moi. Au lieu de ça, ils font qu'empirer la situation. Chapitre 7, versets 20 à 22. Lisez avec moi. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Le fleuve devient infect. Les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Et donc si on regarde en surface, on se dit « Waouh, c'est puissant ça !» Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose, en pire. Ils rajoutent au problème. Et le cœur du Pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Pareil avec les grenouilles. Au lieu d'utiliser leur puissance pour les repousser, c'est ça qui était utile. Ils en font venir encore plus. Chapitre 8, verset 3. Cependant, les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent monter les grenouilles sur l'Égypte. Mais non, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait les repousser. Eux, ils en amènent encore plus. Et si vous lisez, et quoi qu'il arrive, leur puissance, en fait, a une limite. À partir du troisième fléau, ils n'arrivent plus à suivre et sont forcés eux-mêmes de reconnaître. Ah, voilà, c'est le doigt de Dieu. C'est plus que tout ce que nous, on est capable de faire. Chapitre 8, verset 15. Et vous voyez que face à ces évidences, face à ces actes puissants, face à cette parole répétée de Dieu par Moïse et Aaron, « Laisse partir mon peuple. » C'est moi, Dieu, qui parle, qui te parle, Pharaon. Laisse partir le peuple. La réponse de Pharaon, c'est d'endurcir son cœur. Et nous voyons Dieu qui appesantit aussi son cœur. Comment un cœur s'endurcit, même devant l'évidence? Ça, c'est la leçon pour nous. Dans notre lutte avec le péché. Quand nous regardons autour de nous dans notre évangélisation, on se dit, mais pourtant, mais c'est évident. Il doit voir les changements qui se sont passés dans ma vie. Je peux lui témoigner des grands actes que Dieu a fait pour moi. Et devant cette évidence-là, pourquoi ça ne bouge pas? D'abord, remarquons la patience de Dieu en premier. Parce que ce n'est pas au premier fléau et à la première obstination du Pharaon que Dieu dit, bon, alors là, c'est fini. Je tape un grand coup de poing sur la table et fini avec le Pharaon, qu'il meure et en est débarrassé. Oh, Dieu revient devant des gens qui s'obstinent comme Pharaon. Il revient sans cesse proposer, dire ce message, manifester des actes de puissance. Je suis là. Remarquez, reconnaissez que je suis là. Remarquez la patience de Dieu. Pharaon s'obstine au point où il commence à dire « Ouh là, ça devient un peu pesant cette main de Dieu sur moi. Il faut que je demande à ce Dieu-là d'être un peu plus cool avec moi. » Et donc, chapitre 8, On est au chapitre 8 et il dit, il fait venir Moïse à Aaron. Verset 4, il dit à Moïse et à Aaron, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Il commence à vaciller, dirait-on. Et voyez la patience de Dieu. Moïse dit, « À toi l'honneur de me fixer quand tu voudras que ça s'arrête. » Où est-ce que ça commence l'obstination? C'est une sorte d'aveuglement, d'insensibilité à voir les actes de Dieu. Et puis c'est aussi de reporter à quel jour? Qu'est-ce qu'il répond le Pharaon, verset 6? Demain. C'est demain. Mais pourquoi il ne demande pas tout de suite? Les grenouilles sont partout en Égypte en train d'envahir, en train de lui sauter dessus. Mais lui, il demande demain. Demain, sauve-moi. En voyant qu'il y a du répit, un peu plus loin, Pharaon repousse en fait un nouveau Dieu. Comme dans le livre des Juges, on voit le même cycle pour le peuple de Dieu. Ah, un peu de répit, donc le peuple se tourne vers les idoles, au lieu de garder sa relation intime avec le Seigneur qui l'a libéré, et de jouir non pas d'un répit, mais du repos. C'est ça que Dieu a en vue, le repos et non pas le répit. En voyant qu'il y a du répit, Pharaon repousse à nouveau Dieu, comme dans le livre des Juges. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont cette même attitude. Et toi, aujourd'hui, où est-ce que tu es? Est-ce que tu dis à Dieu, je commence à comprendre que tu es Dieu, mais sauve-moi demain. Comme ça, aujourd'hui, je peux encore profiter un peu de ma petite vie. Demain, c'est long et c'est court en même temps. Beaucoup de gens pensent que demain, c'est une bonne mesure. Ça leur laisse le temps. Et en fait, demain, ça vient vite. Surtout quand Dieu intervient pour exécuter ses jugements. Lisez avec moi, chapitre 9, versets 5 et 6. L'Éternel fixa un moment précis. Et il y a pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, qui sont bien après l'Exode, mais aussi après la croix de Jésus-Christ, il y a aussi un moment précis dans lequel Dieu va intervenir, il va revenir, il va juger ceux qui se sont rebellés. Donc pour revenir à Exode, chapitre 9, verset 5, « L'Éternel fixa un moment précis en disant, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Et il agit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent, tandis que pas une seule bête des troupeaux des Israélites ne mourut. Le Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et constata que pas une seule bête des troupeaux d'Israël, était morte. Cependant, le cœur du Pharaon resta insensible et il ne laissa pas partir le peuple. Pharaon est comme un modèle d'endurcissement et donc un avertissement pour nous. Si tu penses échapper, gérer le péché dans ta vie, pouvoir repousser l'échéant jusqu'à demain, tu te trompes. Une seule chose est saine et sage à faire, c'est de crier, mais réellement à Dieu. Jean-Jacques, il se réveille un jour en regardant dans le miroir, et alors qu'il se rase, sa vie défile. Il a 50 ans, sa vie défile devant lui. Il se réveille avec la gueule de bois, il a fait la fête la veille, et tout d'un coup, il se rappelle son enfance dans l'église. Les bons moments qu'il a passés à entendre la parole de Dieu, où il était encouragé par des adultes pleins de compassion, d'amour pour lui, qui l'encourageaient à mettre sa confiance en Dieu. Et pendant un temps, il a cheminé. Il s'est même fait baptiser, Jean-Jacques. Et il s'en rappelle ce jour-là. Puis, il s'est marié, peut-être pas avec la femme qui était... Qui était dans les critères que Dieu avait prévus pour lui. Ça paraissait un petit choix, pas trop grave à faire. C'était gérable. Demain, elle se convertirait. Demain, elle viendrait au Seigneur. Et en fait, c'est Jean-Jacques qui est en train de passer toute sa vie devant ses yeux. Et il se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, il est loin de Dieu. Devenu insensible. En fait, cette insensibilité et la situation dans laquelle il se trouve, c'est pas que du jour au lendemain il a dit « Dieu, c'est fini ». Mais c'est que par plein de petits choix, dans lesquels sans cesse Dieu lui a dit « Voici ma parole, que fais-tu ?» Il a pris des mauvaises directions et se retrouve là où il en est aujourd'hui. L'endurcissement du pharaon, il est aussi progressif. Et petit à petit, son cœur devient insensible, devient lourd. C'est le même motif dans nos vies. Si nous ne sommes pas vigilants, notre cœur s'appesantit, il devient lourd à bouger. Quand nous entendons la parole de Dieu, ouf, c'est compliqué de changer, d'obéir, de se soumettre, de faire confiance. Et on devient de plus en plus insensible. La voix de Dieu devient de plus en plus sourde, lointaine, presque inaudible. Et cela, ça peut nous arriver dans différents domaines de notre vie. Jean-Jacques, peut-être son mariage, puis la poursuite du travail, des richesses, du confort matériel. Ça peut être dans tout un tas de domaines. Et remarquez, comme le pharaon lui-même a un langage religieux, il dit à Moïse, n'est-ce pas ? C'est surprenant, mais priez pour moi. Il y a des personnes qui sont comme ça, ils ont des souvenirs que Dieu est important, mais ils dépendent sur les autres pour être en relation avec Dieu. Notre vie dépend de notre propre relation avec Dieu aujourd'hui et demain et chaque jour. On ne peut pas baser notre relation sur des souvenirs passés. On ne peut pas baser notre relation avec Dieu sur la relation que quelqu'un d'autre a avec Dieu. Et donc, nous avons besoin d'être nous-mêmes en relation avec Dieu. Et ce matin, si c'est ton cas, que tu sens cette insensibilité te gagner, si c'est ton cas que tu sens l'endurcissement venir, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est patient. Dieu patiente avec Pharaon. Dieu sans cesse revient lui parler. Dieu sans cesse accomplit des actes qui prouvent qu'il est vraiment Dieu. Et que le seul secours, le seul salut, c'est en lui. Et donc ce matin, il y a aussi une bonne nouvelle. Si tu te réalises que tes petits choix t'ont amené un peu loin de Dieu, reviens, parce que c'est possible de revenir au Seigneur. Mais ne reviens pas en comptant sur l'Église, sur ta présence le dimanche matin à l'Église, donc sur la relation que les autres ont avec Dieu pour te sauver toi. Comprenez ce que je veux dire ? Ne dépends pas de tes souvenirs passés. Reviens toi-même personnellement à Dieu. Demande pardon. Et dans sa grâce, Dieu est prêt à faire bon accueil à tous ceux qui viennent à lui. Voici la réaction du pharaon. Ma troisième partie, c'est ce qui se passe pour le peuple de Dieu et comment Dieu révèle son caractère unique, véritable. Et il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Il n'y a pas 36. Ce peuple, c'est les Israélites, mais on voit aussi que des serviteurs de Pharaon commencent à réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel. Et donc plusieurs, dans l'entourage aussi des Égyptiens, du Pharaon, commencent à détourner leurs yeux des faux dieux de l'Égypte, commencent à détourner leurs yeux du Pharaon qui était comme un dieu pour le reste de la population, et à regarder vers le Dieu vivant et vrai. Au quatrième fléau, quand il est évident que c'est le doigt de Dieu, déjà, nous voyons le peuple de Dieu traité différemment. Et la différence pour le peuple de Dieu, c'est d'être en lien, justement, d'être attaché à Dieu, non pas parce que lui-même s'accroche à Dieu, mais parce que Dieu a choisi. On l'a vu précédemment, le peuple n'est pas vraiment en train de croire Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait que pour le peuple qui a montré de l'endurcissement, ça c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière, si vous vous rappelez, qu'est-ce qui fait que quand même pour lui c'est différent ? C'est la grâce de Dieu. Et là on doit être ébahi et on doit être à genoux devant Dieu, on doit être reconnaissant pour Dieu qui fait grâce, qui fait compassion, qui a compassion de qui il veut avoir compassion, qui fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Le peuple de Dieu est traité différemment. Il échappe au jugement, aux actes de jugement de Dieu sur l'Égypte parce que il est choisi par Dieu, parce que Dieu a choisi de l'aimer, de prendre soin de ce peuple, parce que Dieu, on l'a déjà vu, même si les circonstances ont l'air complètement contraires, il va tenir ses promesses, les promesses qu'il a faites à Abraham, sur une relation spéciale, d'un lieu spécial pour le louer et d'une bénédiction pour toutes les nations. Avec nous-mêmes, Dieu est présent, même au cœur des difficultés. C'est pourquoi nous pouvons être différents, vivre de manière différente quand nous sommes plongés aussi dans la fournaise. Regardez avec moi, chapitre 8, versets 17 à 20. Donc c'est Moïse qui parle de la part de Dieu. « Si tu ne laisses pas partir mon peuple, j'enverrai les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs. Ton peuple et tes maisons, les maisons des Égyptiens, seront remplies de mouches et le sol en sera recouvert. Cependant, ce jour-là, je traiterai de manière différente la région de Gozen où habite mon peuple. Il n'y aura pas de mouches là-bas afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans cette région. » Qu'est-ce qui rend le peuple de Dieu si spécial? C'est que Dieu est présent au milieu de ce peuple. Qu'est-ce qui rend notre église, notre communauté si spéciale? Parce que quand on regarde franchement à vue humaine, c'est un bon club, quoi, comme il y en a d'autres aussi dans la ville. Mais non, c'est très spécial parce que Dieu est présent dans nos rassemblements. Il est présent même quand l'église n'est pas rassemblée dans la semaine. On reste encore l'église, on reste encore le peuple de Dieu. Anne à Avignon, Farah à Cavaillon-Taillade, en train de vivre sa vie, en train de dépendre de Dieu et de sa grâce. Chapitre 9, versets 3 et 4. La main de l'Éternel frappera tes troupeaux dans les champs, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis. Ça, c'est pour l'Égypte. Il y aura une mortalité très importante. Verset 4. L'Éternel traitera de manière différente les troupeaux d'Israël. Rien de tout ce qui appartient aux Israélites ne mourra. Chapitre 10, versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, si fortes qu'on puisse les toucher. » Waouh ! Moïse tendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens, imaginez ça, les gens ne se voyaient pas les uns les autres. Personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Waouh ! Là, on doit être en train de dire, mais Seigneur, quelle grâce ! Parce que ces Israélites-là, ils n'étaient pas meilleurs que nous. C'était un peuple rétif, avec la nuque raide, un peuple sans importance. C'était pas l'Égypte avec toute sa puissance militaire et sa connaissance. C'était un peuple de bergers. Mais il était spécial parce que Dieu était au milieu d'eux. Et voyez, Pharaon essaye de diviser ce peuple, d'en garder une partie pour lui. Ça ne se passera pas comme ça. Chapitre 10, versets 8 à 11. On fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. Et Pharaon dit, « Allez servir l'Éternel, votre Dieu, leur dit-il. Qui sont ceux qui partiront ?» Question étrange. Moïse répondit, « Nous partirons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Qui est le peuple de Dieu? C'est les petits, les grands, les âgés et les plus jeunes, les hommes, les femmes. Le Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. » Attention, car le malheur est devant vous. Non et non, allez servir l'Éternel, mais seulement vous les hommes, puisque c'est ce que vous demandez. Et on les chassa de chez le Pharaon. Et si vous regardez aussi dans le passage, à d'autres moments, il dit, bah, partez, mais seulement ne partez pas trop loin, qu'on puisse vous avoir avec nous. Le peuple de Dieu est spécial parce que Dieu est en son sein. Et il faut donc qu'il y ait une coupure nette pour tout ce peuple. C'est là que Dieu bénit, c'est là que Dieu est. Et il n'y aura pas de mélange, il n'y aura pas de partage avec les autres. Pourquoi est-ce que Dieu fait tout cela? Pourquoi est-ce que Dieu semble rendre les choses tellement difficiles? Regardez au septième fléau, donc au niveau du chapitre 9, verset 13, quand Dieu envoie la grêle et la foule et la foudre, pardon. On lit au verset 14. « En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, c'est-à-dire l'Égypte et le Pharaon, afin que tu saches, et c'est là la chose importante à retenir ce matin, afin que tu saches, Église aussi de Cavaillon, qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre, dit Dieu. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. » Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Si la puissance de Dieu et la parole de Dieu n'a pas eu d'effet sur Pharaon, ça a quand même un but qui dépasse Pharaon et l'Égypte. C'est que son nom à Dieu soit reconnu par toute la terre, par les autres nations et par le peuple de Dieu. Voilà pourquoi je t'ai suscité, dit Dieu, c'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Et voyez, au verset 20, il y a des résultats à cela. Les serviteurs du Pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons. Tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Et ce qui est arrivé... est arrivé, c'est-à-dire qu'ils sont morts, tout cela. Qu'est-ce qui compte donc ? C'est de prendre au sérieux la parole de Dieu et de réaliser qu'il est le seul, il n'y a personne qui est comme lui sur toute la terre. Regardez encore le huitième fléau, avec les sauterelles. Et au début donc, du chapitre 10, l'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. » C'est aussi, et c'est là que c'est important de nouveau pour nous, c'est aussi pour que tu racontes à tes enfants et petits-enfants comment je suis intervenu contre les Égyptiens, et quel signe miraculeux j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez ainsi, quoi ? Que je suis l'Éternel. Dieu, de la même manière aujourd'hui, utilise son Église pour être des porte-paroles. Il est en mission au travers des églises locales pour faire connaître la bonne nouvelle. Laisse partir mon peuple ! Et le diable peut bien trembler, il peut bien essayer de diviser ce peuple, il peut bien essayer de s'obstiner contre les plans de Dieu, mais il y a un jour précis fixé par le Seigneur, et demain, ça vient vite, où Dieu va mettre un terme à tout cela. Et en attendant, Dieu est occupé, et ça passe aussi par l'Église locale, à faire connaître son nom aux gens de toutes les nations. C'est chouette qu'ici, à Cavaillon, on est déjà représentatif de cette réalité-là. Je vois tout d'un coup Larissa, voilà, qui arrive du Brésil. Je vois Valérie qui est avec nous ce matin, avec donc le Bénin, n'est-ce pas ? On a Kevin, Farah, Ali, tous. On a des origines. Il y a même des ch'tis parmi nous. Donc Dieu est vraiment intéressé par les gens faibles, n'est-ce pas ? Et il y a une dimension d'évangélisation donc dans tout ce que Dieu fait. Et on va trouver la même réaction dans notre évangélisation. Dans notre mission d'église. Il y en aura certains qui vont prendre la parole de Dieu au sérieux. Ils pourront être sauvés. Et on verra d'autres qui vont s'obstiner, qui vont devenir insensibles. Et malheureusement, la perspective pour eux n'est pas très bonne d'après la parole de Dieu. Ok, je voudrais juste prendre une minute pour conclure. Nous ramener de nouveau de toute cette histoire de l'Exode à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le porte-parole parfait de Dieu. Est-ce que nous allons prêter attention à sa parole ? Oui ou non ? Il n'y a pas une troisième voie. Et je sais que nombreux ici sont en train de le faire. Et donc, ma parole d'encouragement, c'est continuons à le faire. Parce que c'est là que nous sommes en sécurité. C'est quand nous écoutons la parole de Dieu que Dieu est présent en notre sein. Et donc, nous sommes un peuple à part, protégé des actes de jugement de Dieu. En partie, parce qu'il y a des restes de péché, on va peut-être subir certaines choses, mais ça n'ira pas au-delà de ce que Dieu a prévu pour nous. Donc gardons confiance même quand les situations semblent difficiles. Dieu nous traite à part. Dieu nous traite comme des fils et des filles. Et donc même si un papa, des fois, doit punir ses enfants, il le fait avec amour et il y a une certaine limite à ces châtiments, si vous voulez. Donc regardons à Jésus, le médiateur, celui qui fait l'interface parfaite avec nous et Dieu. Comptons sur lui pour être en relation avec Dieu, non sur autre chose. Et comptons sur lui pour nous libérer. C'est lui le libérateur. Et nous le voyons à la croix. Et gardons notre espérance ferme que le jour vient où il vient nous chercher. Ça c'est vrai, ça c'est une réalité. Et donc restons ferme dans notre espérance en attendant ce jour-là. Dieu vient et alors aux yeux de tous, ce sera manifeste que Dieu est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre.